Chapitre 8. Ce sont mes parents qui m'ont emmenée au jardin des Cybèles. Un matin, ils avaient frappé à la porte de mon appartement, et comme je ne leur ai pas ouvert, ils ont utilisé la clé que je leur avais donnée. J'étais dans la chambre de Suzanne, à respirer le dernier pyjama qu'elle avait porté. Le seul que j'avais pas mis à laver, et qui était encore imprégné de son odeur, même si celle-ci commençait peu à peu à disparaître. Anna, ma chérie, tu ne peux pas rester toute seule comme ça. Depuis combien de temps n'as-tu pas fait de vrais repas ? M'avait demandé ma mère. Je ne m'en souvenais plus. Je buvais lorsque ma bouche devenait sèche, mais je ne ressentais pas vraiment la faim. Une pomme à moitié grignotée gisait à mes pieds. Est-ce qu'elle datait de la veille ou de l'avant-veille ? J'étais incapable de m'en souvenir. Si tu ne veux pas venir chez nous, nous t'emmenons dans un endroit où l'on s'occupera de toi. Dans un état second, j'avais tenté de protester. Qui s'occuperait de Suzanne quand elle se réveillerait? Et s'il lui manquait son monsieur Panda, elle ne pourrait pas se rendormir sans lui. Puis, pour la dixième fois de la journée, je m'étais souvenue que Suzanne ne se réveillerait jamais, qu'elle était partie, et je m'étais mise à pleurer. Mon père m'avait soulevée du rocking chair, comme si je ne pesais rien, ce qui allait finir par être le cas. Ma mère, de son côté, avait rempli une valise avec quelques vêtements choisis au hasard dans ma penderie. Ils m'avaient installée à l'arrière de leur voiture, celle qu'ils ont depuis des années, et avec laquelle on partait en vacances au bord de la mer chaque été. Cette voiture synonyme de rire, de miettes de chips écrasées, de nez collé aux vitres à regarder défiler les paysages. J'ignore combien de temps nous avons roulé. Je ne pensais qu'à ma Suzanne, incapable de me défaire de l'image de son petit cercueil. Une fois arrivée, maman avait rempli quelques papiers. J'avais répondu à plusieurs questions et confirmé que je consentais à être ici. Ici ou ailleurs, qu'est-ce que ça changeait de toute façon ? Valentin sait que vous êtes au jardin des Cybèles ? Je ne sais pas. Peut-être que mes parents le lui ont dit. Ma mère l'aime beaucoup. Elle le trouve gentil. J'avais un peu peur la première fois que je le lui ai présenté, parce qu'elle déteste les copines de mes frères. Peut-être devriez-vous l'appeler ou lui écrire un message ? Ça ne servirait à rien. Il m'a quittée. Lui aussi doit penser que tout est ma faute. Que j'aurais dû mieux surveiller notre fille. Avez-vous envisagé qu'il puisse s'en vouloir, lui aussi, de ne pas être allé vérifier que tout allait bien pendant que Suzanne dormait ? Je ne crois pas. Il me l'aurait dit. Chacun souffre à sa manière, Anna. Valentin n'a pas fait un choix judicieux en fuyant, c'est certain. Mais n'oubliez pas que lui aussi a perdu sa fille. Peut-être pourriez-vous lui laisser une chance de s'expliquer ? Valentin n'avait pas prévu de devenir père aussi jeune. Pour tout dire, la question des enfants ne s'était même jamais posée. On était heureux comme ça, et on profitait pleinement de notre histoire. Je l'aimais plus que tout. Avec lui, je pouvais être moi-même. Il respectait ma timidité, mon côté introverti, et ne me reprochait jamais de ne pas me sentir très à l'aise lorsque nous sortions avec son groupe de copains. On pouvait passer des journées entières lovés l'un contre l'autre sur le canapé, à regarder la télévision, avec un grand saladier de pop-corn posé sur la table basse devant nous. Il m'a fait découvrir les films de kung-fu. Il adorait Bruce Lee, depuis tout petit. La première fois que nous avons visionné La Fureur du Dragon ensemble, son amour pour ce film m'avait ému aux larmes. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai d'abord gardé ça pour moi. Je ne savais pas comment le lui annoncer. J'avais peur qu'il me quitte si je refusais d'interrompre ma grossesse. Mais moi, je voulais à tout prix garder cet enfant. Je n'avais pas envisagé de devenir mère à 20 ans. Mais j'ai aimé ce petit être dès le résultat du test. J'attendais le moment propice pour l'annoncer à Valentin. Je cherchais les bons mots. Et puis un matin, il m'a entendu vomir. Quand je suis sortie de la salle de bain, il m'a lancée en plaisantant. « Tu n'es pas enceinte, j'espère ? Mon expression avait dû valoir toutes les réponses. Il avait blêmi. Et je m'étais dit que notre histoire allait s'arrêter là, et que je viendrais grossir les rangs des mères célibataires. Il lui avait fallu quelques jours pour digérer la nouvelle. Quelques jours pour, m'avait-il expliqué par la suite, réussir à dépasser ses craintes de ne pas être à la hauteur. Avant ce test positif, il n'avait pas réfléchi à ce que cela impliquait de devenir père. Il a été présent tout au long de la grossesse. Même s'il ne se sentait pas toujours à sa place, ni ne savait quoi dire, il a tenu à m'accompagner à tous mes rendez-vous. Je me souviens encore de la première échographie et de sa réaction à l'écoute des battements de cœur, forts et rapides, de notre bébé. Il m'avait attrapé la main et l'avait serrée, sans quitter des yeux l'image un peu floue du petit être humain qu'on avait conçu. J'ai l'impression d'avoir vécu dans une bulle pendant 6 mois, à l'affût de la moindre sensation inhabituelle, m'émerveillant ensuite à chacun des mouvements de ma fille. Parfois, quand je posais mes mains sur mon ventre, je la sentais venir s'y nicher. C'était magique. Vous étiez seule lorsque vous avez découvert que Suzanne était inanimée ?
Oui.
Valentin a quitté notre appartement très tôt ce jour-là. Il avait un chantier à plus d'une heure de route et il voulait éviter les embouteillages. Je crois que je ne l'ai même pas entendu partir. Quand je me suis réveillée en sursaut, il était 9 heures. Je me suis précipitée, mais je crois qu'ils ont indiqué l'heure probable de sa mort dans le compte-rendu. Mais je ne veux pas savoir. Qu'avez-vous fait, Anna, lorsque vous avez compris que Suzanne était décédée?
J'ai hurlé, de toutes mes forces. Je me suis écroulée. Ensuite, je l'ai prise dans mes bras quelques secondes. Elle était... Je l'ai reposée. J'ai replacé Monsieur Panda contre sa joue. Et je suis allée chercher mon téléphone. J'ai essayé de joindre Valentin, mais je suis tombée sur son répondeur. Je ne me suis pas rendu compte que la messagerie s'était déclenchée. Je pensais à ma petite fille qui ne bougeait plus dans son berceau, aux vêtements en taille 6 mois qu'on venait de lui offrir et qu'elle ne porterait jamais, aux 10 boîtes de lait que j'avais achetées d'avance en me demandant si la pharmacie accepterait de me les reprendre. C'est affreux, non?
Qu'est-ce qui est affreux?
De penser à des choses pareilles, à des détails aussi insignifiants.
Vous étiez en état de choc. Votre cerveau a cherché à vous protéger de cet événement traumatique en déplaçant votre attention sur du détail, de l'insignifiant, comme vous dites. Comme une mise à distance temporaire, juste le temps nécessaire. Vous êtes simplement un être humain, Anna.
Valentin a débarqué, fou d'inquiétude, moins d'une heure après. La messagerie, il m'a entendu pleurer pendant les 3 minutes d'enregistrement. Il a ouvert la porte de notre appartement et a hurlé mon prénom. Comme je ne répondais pas, il a fini par entrer dans la chambre de Suzanne. Il m'a trouvée assise dans le fauteuil à bascule, ma fille dans les bras. Je lui chantais une berceuse. Je ne m'en souviens pas. Je l'ai entendu le raconter à ma mère lorsqu'elle est arrivée un peu plus tard. Je crois qu'il m'a posé des questions. Mais j'étais ailleurs. Dans un monde où ma petite fille était encore en vie. Où elle gazouillait quand je lui caressais la plante des pieds. À un moment, on me l'a prise des bras. Il y avait du monde autour de moi. J'entendais du bruit. Des visages me fixaient. Mais j'étais loin. Je ne sais même pas si j'ai résisté. Si j'ai essayé de garder Suzanne contre moi. Tout me semblait... irréel.
Vous m'avez dit l'autre jour que Valentin vous avait quitté. Était-ce longtemps après ?
Non. Je n'ai pas été capable de prononcer un seul mot pendant plusieurs jours, ni de verser la moindre larme, comme si j'étais anesthésiée. Je l'ai entendu pleurer à plusieurs reprises la nuit, quand il croyait que je dormais. J'aurais dû lui parler, mais je n'étais pas vraiment là. Un matin, j'ai trouvé un petit mot sur la table de la cuisine. Il y était écrit que c'était trop dur de rester. Il me demandait de prendre soin de moi. Je ne l'ai pas revu après ça. Il n'a pas essayé de me joindre. J'imagine qu'il est retourné vivre chez ses parents. Que ressentez-vous aujourd'hui pour lui, Anna ?
Je ne sais pas. J'essaye de ne plus rien ressentir, pour qui que ce soit. Je me dis que, comme ça au moins, je ne souffrirai plus.
Est-ce que vous pensez qu'un jour je serai capable de penser à ma fille ou de parler d'elle sans avoir l'impression qu'on m'arrache le cœur ?
Vous venez de vivre un drame. Je vous mentirais si je vous disais que le temps refermera entièrement cette blessure. Mais la vie va reprendre le dessus, Anna. Je vous le promets. Elle est ainsi faite.